Les Portugais quittent le Portugal pour aller en Inde pour découvrir de nouvelles terres et faire du commerce. Ils ont quitté le Portugal à la fin du XVe siècle, puis sont arrivés en Inde en contournant l'Afrique en bateau. Le personnage important de cette grande découverte s'appelle Vasco de Gama.
Il est le premier navigateur européen à atteindre l'Asie. Il a quitté Lisbonne en 1497 et a atteint le port indien Calicut un an plus tard. Il effectue deux autres voyages et se fait nommer vice-roi des Indes en 1524. La rencontre des peuples d'Asie se passe bien au Japon. Ils font du commerce avec plein de sortes de marchandises.
Les Espagnols découvrent des peuples lointains. Les Espagnols veulent se rendre en Inde afin de pouvoir profiter des ressources de ce pays, telles que les herbes, les épices et les arômes. Un Espagnol nommé Christophe Colomb part d'Espagne en 1492. Christophe Colomb et son équipage partent en caravelle, un navire de l'époque. Christophe Colomb est celui qui a découvert l'Amérique. Il est né le 26 août 1451 en République de Gênes. Et il est mort le 20 mai 1506.
Christophe Colomb arrive en Amérique en voulant aller en Inde. Il rencontre les Indiens d'Amérique. Christophe Colomb et son équipage commencent par vouloir les convertir au christianisme. Ensuite, il les exploite en faisant des esclaves. En même temps, un autre Espagnol se fait connaître pour avoir découvert que la terre était ronde. Il se nomme Fernandino de Magellan et part vers l'ouest et fait le tour du monde en 3 ans.
L'Empire de Charles Quint. Le sujet de ce dont je vais vous parler est l'Empire de Charles Quint. Charles Quint est le souverain le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle. Il est né en 1500, a renoncé au pouvoir en 1556 et est mort en 1558. Charles Quint règne en Europe sur l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume de Naples et en Amérique, à l'ouest du Mexique au Chili actuel, grâce aux Espagnols qui étaient sous son autorité. Charles Quint a dit lui-même « Mon intention n'est pas de faire la guerre contre les chrétiens, mais bien contre les infidèles. Je souhaite que l'Italie et la chrétienté soient en paix et que chacun possède ce qui lui appartient. » Les infidèles sont ceux qui ne sont pas chrétiens, et la chrétienté est l'ensemble des chrétiens. Charles Quint passe une grande partie de son règne à combattre les Turcs ottomans et le roi de France, François Ier. Les Turcs ottomans sont les habitants de l'Empire ottoman.
On va vous présenter un sujet sur l'Empire ottoman de Suleiman le Magnifique. Le sultan s'appelle Suleiman, le surnom que l'Occident lui a donné est le Magnifique. Suleiman a régné en 1520 à 1566. Suleiman le Magnifique est un sultan et un musulman.
L'Empire ottoman est devenu très puissant car il a un important développement culturel et artistique, surtout dans le bassin de la Méditerranée.
À cette époque-là, l'Empire de Suleiman le Magnifique se situe au nord de l'Afrique jusqu'au sud de la Russie, mais il n'a pas réussi à conquérir l'Europe. Suleiman et ses hommes faisaient la guerre pour agrandir leur empire.
L'Empire ottoman échange avec l'Asie des épices, de la céramique et de la soie. En 1529, lors de la guerre entre l'armée ottomane et l'armée de Charles Quint, l'armée ottomane échoue à prendre Vienne. Cette ville a été défendue par le frère de l'empereur Charles Quint.
La Méditerranée est un espace dans lequel on peut échanger des épices, des tapis, de l'or et de la soie. C'est aussi un espace de rivalité.
Les puissances qui s'y opposent sont l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique et l'Empire de Charles Quint. Soliman fait alliance avec le roi de France, François Ier.
L'humanisme, une nouvelle vision de l'être humain. Au XVe et au XVIe siècle, l'humanisme est apparu en Europe. Des milliers de feuilles ont été imprimées grâce à l'invention de l'imprimerie pour être distribuées dans quelques endroits de l'Europe en expliquant ce que peuvent faire les humains. Des écrivains, des penseurs et des savants redécouvrent l'Antiquité. On appelle ça l'humanisme. Léonard de Vinci a fait un dessin présentant un homme illustrant les proportions idéales du corps humain. Ce dessin a été créé en 1452-1519.
Érasme, le prince des humanistes, a consacré toute sa vie à redécouvrir des œuvres de l'Antiquité et à l'étude de la Bible dont il souhaite une traduction dans toutes les langues des hommes. Les humanistes mettent en avant le fait que les humains peuvent travailler avec leurs mains, faire du sport avec leurs jambes, et ils peuvent apprendre plusieurs langues comme l'italien, l'espagnol et l'anglais. Au Moyen Âge, les changements ont évolué sur le concept de l'humanisme. Dans l'Antiquité, on savait moins de choses, on savait faire moins de choses.
Des bouleversements scientifiques et techniques.
Copernic est un astronome polonais qui, après de longues recherches, a démontré que ce n'était pas la Terre qui était au centre des astres, mais le Soleil.
Wessel est un médecin flamand qui découvre les secrets du corps humain. Il les a découverts grâce aux personnes qui ont donné leur corps à la science avant leur mort, puis en les disséquant.
Luca Pacioli est un moine mathématicien. Il enseigne dans quasiment toute l'Italie, notamment dans les cours princières, c'est-à-dire qu'il enseigne aussi dans les châteaux. L'intérêt de ces découvertes est de révolutionner le monde.
Galilée est un astronome italien qui construit une lunette astronomique en 1609. Il défendit l'idée de Copernic, comme quoi les planètes tournent autour du Soleil, et il découvrit aussi que la Terre était ronde.
Luther et la réforme protestante. On va vous parler d'une personne qui s'appelle Luther. Il naît dans le Saint-Empire en 1483 et est décédé en 1546. C'est un moine et un professeur de théologie. Luther reproche au pape de faire payer les fidèles pour se faire pardonner à Dieu. L'argent sert à construire une basilique. C'est une grande maison, c'est la vente des indulgences.
Luther a traduit la Bible en plusieurs langues, français, allemand. Il n'y a que deux sacrements, le baptême et la communion. Il crée une nouvelle religion, le protestantisme. Suite à cela, le pape l'exclut de la religion catholique. Il est excommunié. Les protestants pratiquent leur religion en allant au temple. Dans un temple, il y a une croix, pas d'image, contrairement à l'église, où il y a une croix et des images.
La réforme catholique, c'est une réforme pour apporter un changement pour faire mieux.
La réforme catholique, c'est un mouvement de la part des catholiques pour corriger les abus et pour mieux lutter contre les protestants.
Ça se passe dans les années 1545 à 1563, dans la chrétienté à Trente, en Italie.
Les principes qu'on doit respecter pour aller au concile, c'est d'être irréprochable, sobre et honnête. Et le concile, c'est une assemblée d'évêques et d'abbés pour parler de questions religieuses.
Les protestants et les catholiques ont en commun la foi de croire en Dieu et en Jésus, et aussi la Bible.
Mais ils n'ont pas en commun les sacrements, les intercesseurs, les ornements et l'Église.
On peut en conclure qu'ils s'opposent ou qu'ils sont adverses.
Les conflits religieux en Europe. Nous allons vous parler des conflits religieux entre catholiques et protestants.
Au début du XVIe siècle, la réforme protestante réussit à conquérir une partie de l'Europe.
Cependant, l'Église catholique réagit et restaure son autorité, mais l'opposition se renforce.
Les guerres de religion se multiplient donc à partir de 1562.
Le 24 août 1572, à Paris, le jour de la Saint-Barthélemy, la reine Catherine de Médicis et son fils, le roi Charles IX, font massacrer des chefs protestants réunis à Paris.
Le prince étant catholique, il voulait garder une unité de foi, tout comme les autres souverains.
Les différentes guerres de religion étaient donc aussi des enjeux politiques.
Nous allons parler du règne de François Ier et pourquoi il est le prince de la Renaissance.
François Ier est né le 12 septembre 1494. Il est couronné roi de France le 25 janvier 1515 et son règne se termine à sa mort le 31 mars 1547. Son règne se déroule en France, au début des temps modernes et vers la fin de la Renaissance.
C'est un roi guerrier car il va lui aussi faire la guerre. Il a participé à celle de Marignan, en Italie, en 1515, contre le duc de Milan. Ce qui fait de François d'Orléans, le roi de France que l'on nommera par la suite François Ier, à l'âge de 20 ans.
Il est aussi un roi mécène et humaniste car lors de son règne, il s'est entouré d'artistes. Il les a aidés financièrement pour qu'ils puissent réaliser des œuvres. François Ier les a protégés. C'est un roi qui porte plus d'importance à l'espèce humaine. C'est donc un roi humaniste et un prince de la Renaissance. Par exemple, il a été mécène de l'artiste italien Léonard de Vinci.
François Ier est un roi absolu parce qu'il dirige toute la France et s'entoure d'artistes, de conseillers et d'humanistes. C'est un roi important dans la Renaissance. C'est un roi qui montre sa richesse dans les couleurs, les symboles et les vêtements.
En 1539, François Ier a édicté l'ordonnance de Villers-Cotterêts
entre le 10 et le 25 août 1539. Ce texte a été enregistré au Parlement de Paris le 6 septembre. Cette ordonnance est le plus vieux texte encore en état que l'on peut trouver en France. Depuis ce jour, grâce à cette ordonnance, tous les textes sont écrits en français.
Henri IV est d'abord roi de Navarre, puis roi de France de 1589 à 1610. À la base, il est protestant, mais quand il devient roi, il se convertit au catholicisme. Pendant son règne, il décide de créer une loi qui se nomme l'Édit de Nantes, qui permet de rétablir la paix entre les protestants et les catholiques.
Il s'adresse au Parlement de Paris qui refuse l'enregistrement de l'Édit de Nantes. Il parle au Parlement en disant qu'il est le roi et qu'il veut être obéi. Le roi utilise les arts pour se mettre en scène, par exemple entre deux allégories, c'est-à-dire une représentation d'une idée. Une représente la paix et l'autre la religion chrétienne.
Louis XIV, roi absolu, de Clémence Béraud et Marion Cavillo. Nous allons vous parler du règne de Louis XIV.
En 1643, naît Louis XIV. À la mort de son père, en 1654, lorsqu'il n'est encore qu'un mineur, Louis XIV monte sur le trône de France. À ce moment-là se met en place une régence avec Mazarin, c'est-à-dire que le roi ne gouverne pas tout seul, car il n'est pas encore majeur. Ce n'est qu'en 1661, à la mort de Mazarin, le premier ministre de la famille royale, que Louis XIV décide d'écarter ses conseillers et de commencer son règne personnel pour être un roi de gloire et faire de la France un état puissant. L'armée de Louis XIV est la plus puissante de son temps.
Louis XIV veut être un roi absolu, c'est-à-dire un roi considéré comme un représentant de Dieu sur terre qui détient tous les pouvoirs. Afin de se mettre constamment en valeur, Louis XIV se crée une cour avec de nombreux courtisans et courtisanes ainsi que de nobles qui sont soumis à des règles très strictes, l'étiquette. Il se fait aussi appeler le roi soleil en référence à Apollon, le dieu grec de la lumière, et utilise les arts comme la peinture, la poésie ou encore la musique pour se mettre en scène.
Louis XIV, après plusieurs années de travaux, transforme le château de Versailles en un énorme château et s'y installe avec sa cour et son gouvernement en 1682. C'est le lieu où il étendra sa puissance royale.